Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. À l'occasion du festival Le Goût des Autres, qui se tient actuellement en Normandie, dans la ville du Havre, pour des rencontres littéraires ouvertes sur le monde, j'accueille aujourd'hui l'invité d'honneur de la manifestation, l'écrivain cubain Leonardo Padura. Bonjour.
Bonjour, bonjour, merci.
Vous êtes l'auteur d'une douzaine de livres, policiers et historiques, de nombreuses fois récompensés, et votre nouveau roman paraît en français sous le titre « La transparence du temps », dans une traduction d'Elena Zayas, aux éditions Métellier, comme tous vos titres depuis 2001. Et d'ailleurs, à vos côtés se trouve votre éditrice française, Anne-Marie Métellier, fondatrice de la maison qu'elle a créée il y a 40 ans exactement. Bonjour et bon anniversaire.
Bonjour, merci.
Et je commence avec vous, Anne-Marie Métellier, car vous êtes certainement en France la lectrice la plus avisée et la plus fidèle de l'œuvre de Leonardo Padura. Comment avez-vous découvert l'œuvre de Leonardo Padura ?
Alors, je publie depuis 1998, et j'ai rencontré Leonardo au cours de rencontres organisées par Paco Ignacio Taibo II à Gijón, dans les Asturies. C'était la Semana Negra, et j'ai été assise à table devant une fabada, qui est un plat qui tient au corps, à côté de Leonardo. Il avait écrit deux romans noirs que nous avons publiés, mais après, et je lui avais dit, on va attendre que ce soit plus littéraire. Et il m'a envoyé le roman que nous avons publié sous le titre de Electre à la Havane, et qui est un livre absolument magnifique. Et on a commencé à travailler, et on s'est bien entendu. Mmh. Et ça a marché.
Et vous accompagnez donc cette œuvre depuis plus de 20 ans maintenant.
Oui, mais moi, il faut savoir que moi, je souffre d'un syndrome profond. C'est que je ne publie pas des romans, je publie des auteurs. Et j'ai le syndrome des œuvres complètes. Et si vous regardez mon catalogue, vous allez voir que c'est vraiment, c'est un peu frénétique de ma part. Je veux publier tout.
Donc voici tout Padura.
Muchas gracias por esta posibilidad. Y muchas gracias a mi querida Anne-Marie por servirme de traductora en esta entrevista.
Merci de cette invitation et me remercie de faire l'interprétariat de cette interview.
Para un escritor cubano que vive en Cuba en los años 90.
Pour un écrivain cubain dans les années 90 qui vivait à Cuba, c'était très compliqué de trouver une maison d'édition en dehors de Cuba.
Et quand Anne-Marie, à la que conocía como editora,
et quand Anne-Marie m'a proposé, bueno, que je connaissais no comme une personne, m'a proposé de me publier un de mes romans, j'ai été très heureux.
Pues yo me sentí muy feliz. Desde entonces hemos vivido un largo romance de 20 años.
Depuis lors, nous avons vécu un grand roman de 20 ans.
Porque Anne-Marie no solamente es una de las personas.
Car Anne-Marie n'est pas seulement la personne qui édite mes livres, c'est quelqu'un qui lit mes livres.
Yo soy un escritor que tengo a veces muchas inseguridades.
Je suis un écrivain qui a peu confiance en lui et j'ai besoin d'avoir des gens dans lesquels j'ai confiance et qui lisent mes livres.
Et donc, nous suivons vos aventures, et particulièrement celle d'un de vos personnages récurrents, Mario Conde, que l'on a découvert dans le roman Passé Parfait, premier tome du cycle Les Quatre Saisons, et qui, après d'autres livres sans lui, dont L'homme qui aimait les chiens ou encore Hérétique, revient sous votre plume avec cette nouvelle énigme, La transparence du temps, qui se déroule essentiellement en septembre 2014, où Mario désormais n'est plus policier. Il a pris de l'âge, il est sur le point de fêter ses 60 ans, un certain 9 octobre, comme vous, ou presque, puisque vous lui avez donné une année supplémentaire. Est-ce que c'est un indice pour nous dire que c'est un peu vous, mais pas tout à fait vous, puisque d'ailleurs vous n'avez jamais été policier, en tout cas pas à ma connaissance. Et en d'autres termes, quel est le lien entre Padura et Conde ?
Mario Conde no es mi alter ego. Él tiene
Mario Conde n'est pas mon alter ego, il a sa propre vie, ses propres manies, ses habitudes.
Pero Mario Conde es un hombre que por ser una persona de mi generación...
Mais Mario Conde est comme un homme de ma génération et qui a vécu les mêmes expériences que j'ai vécues à Cuba, que nous avons vécues à Cuba.
Tiene una mirada, una interpretación de esa realidad cubana muy cercana a la mía.
Il a un point de vue et une interprétation de la réalité cubaine qui est très proche de la mienne.
Y eso hace que esa cercanía, pues,
et cette proximité fait que nous nous approprions, lui et moi, de la même manière cette réalité.
Y a veces incluso vamos un poco más allá.
Mais de temps en temps, nous nous rapprochons tellement que nous avons la même approche, par exemple, de la transcendance et du religieux.
Ou algunos autores, œuvres de la littérature.
Et parfois, Mario Conde me sert aussi à me donner un point de vue sur la littérature, comme dans Adios Hemingway, où lui et moi avons fait une lecture de Hemingway assez particulière.
Est-ce que vous imaginiez en 1989, quand vous avez donné naissance à Mario Conde, que 30 ans plus tard, il serait encore à vos côtés?
Non. Je créais à Mario Conde pour une novela.
J'ai créé Mario Conde pour un seul roman.
Esa novela, el personaje de Mario Conde me servía
para... Il m'a servi à faire une rupture avec ce qui était le roman noir à Cuba.
Policial, la novela negra. Mario Conde es un policía que casi no es policía, es casi un antipolicía.
Mario Conde es un policier qui est presque un antipolicier.
Te voy a decir tres o cuatro características de Mario Conde.
Et je vais justifier cette façon de dire que c'est un antipolicier en disant trois ou quatre caractéristiques de Mario Conde.
Mario Conde es un hombre sensible, inteligente, culto, y no digo más.
C'est un homme sensible, intelligent et cultivé, et ça suffit.
Y cuando me di cuenta que ese personaje seguía vivo y que podía seguir trabajando con él.
Quand je me suis rendu compte que ce personnage était pour moi vivant et qu'il pouvait encore me servir, je l'ai utilisé pour écrire encore quatre romans qui sont les quatre saisons de La Havane.
Pero después me di cuenta de que Mario Conde, aunque hubiera dejado de ser policía,
et puis je me suis rendu compte que même si Mario Conde n'était plus un policier, c'était un personnage qui était capable de rechercher la vérité et de révéler la vérité.
Y por eso es que ya llevamos 28 años viviendo juntos Mario Conde y yo.
C'est pourquoi nous vivons déjà ensemble depuis 28 ans, Mario Conde et moi.
Et donc on le retrouve ici, il a quitté la police depuis longtemps d'ailleurs, pour une question d'honneur. Il survit en cherchant et en vendant des livres rares, ce qui renvoie à ce que vous disiez à l'instant, que c'était un homme cultivé, intelligent et sensible. Il broie un peu du noir parce qu'il redoute le passage à la soixantaine. Et quand un ancien ami tape à sa porte pour lui demander de l'aide dans une affaire délicate, Conde accepte assez vite. Il faut dire que l'histoire est mystérieuse. Son ami s'est fait voler la statue en bois d'une vierge noire, statue très précieuse. Et surtout, c'est une enquête qui pourrait lui rapporter de l'argent dont il a bien besoin pour manger à sa faim, voire s'acheter de nouvelles chaussures. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette intrigue, Leonardo Padura, qui va mener Conde à la fois dans le milieu de l'art, de la religion et aussi dans les quartiers les plus pauvres de la Havane?
Yo creo que si uno entiende la novela policiaca,
je crois que si on considère le roman policier seulement comme un roman avec une énigme et une solution de cette énigme, on appauvrit vraiment le roman.
Esa es la manera en la que yo entiendo la novela policial.
Je pense que le roman policier est un genre très aimable qui vous permet de faire du roman social, du roman historique, du roman philosophique.
Et en la transparencia del tiempo hay toda una reflexión.
Il y a dans la transparence du temps toute une réflexion sur ce qu'est la vie dans la Havane contemporaine.
Una visión que muchas veces se ve en blanco y negro.
Généralement, on voit ça en noir et blanc, ou c'est tout bon ou c'est tout mauvais.
Y como yo vivo esa realidad y participo de esa realidad, pues
trato. Et comme moi je vis dans cette réalité, j'essaie de trouver, de montrer toutes les nuances qu'il y a entre ces deux couleurs.
Pero es que esa vida cubana es una vida que está...
Mais cette vie cubaine se déroule dans un énorme processus historique.
Y los comportamientos de esos personajes...
Et les comportements de ces personnages sont contenus dans ce qu'est la condition humaine.
Entonces, pues yo utilizo esta novela para hablar de La Habana, de Cuba,
et pero también j'utilise para cette, hablar de la ce roman de la pour parler humana, de ces conditions de la Havane et aussi de la condition humaine et de la façon de vivre cette histoire tout en même temps.
Mais pourquoi ici vous intéressez-vous à l'art, au trafic d'art, aux galeristes, à travers ce symbole de la statue ?
Si, la situation cubaine a provocado...
La situation cubaine a fait que se mettent à réapparaître des éléments qui étaient perdus ou plutôt cachés.
Por ejemplo, en esta novela se habla de un
Par exemple, dans ce roman, on parle de tout un secteur de la société qui commence à s'enrichir.
Y también hay un sector de la sociedad que se empobrece mucho más.
Et il y a un autre secteur qui s'appauvrit beaucoup plus.
Entre esos movimientos sociales, pues, esto hay...
Et dans ce contexte, il y a toujours des filous qui trouvent la façon de vivre mieux.
La manera de vivir mejor. Y eso también tiene mucho que ver...
Et cela a à voir avec cet appauvrissement de tout un secteur de la population.
En una novela anterior que se llama La neblina del ayer, Les brumes du passé...
Dans un autre de mes romans, Les brumes du passé, les objets qui font l'objet du trafic, ce sont les livres anciens.
Et ahora, en esta novela, son bienes culturales que
et dans ce roman, je prends des œuvres d'art de grande valeur.
Y si esa obra de arte, tiene además un elemento místico.
Et si ces objets d'art ont une valeur mystique, ça leur donne encore plus de valeur.
Y es lo que trato de hacer, utilizar,
je prends ce secteur du trafic d'art pour parler de la réalité cubaine.
De la realidad cubana y de los objetos de arte.
Et les objets d'art pour parler de choses qui sont beaucoup plus transcendantes et plus universelles.
Porque creo que uno de los problemas.
Je crois que l'un des problèmes que peut avoir un écrivain cubain se trouve entre ce qui est local et ce qui est universel.
A veces la realidad cubana es tan contradictoria.
La réalité cubaine est tellement particulière que parfois les écrivains s'intéressent à ce qu'il y a vraiment de particulier.
Y olvidan un poco que todo tiene o puede tener.
Et ils oublient que si on se donne la peine de travailler, tout peut avoir vraiment une projection beaucoup plus universelle.
Y es lo que yo trato de hacer con novelas como.
C'est ce que j'essaie de faire avec des romans comme Hérétique ou La transparence du temps.
¿Qué tiene que ver una virgen negra?
Qu'est-ce qu'il y a à voir entre une vierge qui vient des croisades et des terres saintes et Cuba? Et un petit tableau peint par Rembrandt au XVIIe siècle et Cuba maintenant? Quel rapport y a-t-il?
Bueno, pues tiene mucho que ver y no voy a decir cómo. Para que los lectores lo descubran en las novelas.
Eh ben, y a beaucoup à voir les uns avec les autres, mais je ne le dirai pas parce que je veux que les lecteurs le découvrent eux-mêmes.
Évidemment.
Cuando no hay experiencia.
Sans frontières.
Leonardo Padura, comme souvent d'ailleurs, vous faites donc la cartographie sociale de ce pays, de cette ville. Et à travers Mario Conde, qui recherche la statue, il passe à la fois d'un milieu très très riche, les galeristes, ceux qui gagnent de l'argent, à ce milieu très très pauvre, près de la Havane, où des gens se sont installés là, au début de façon provisoire, et maintenant c'est une ville, mais une ville de misère. Et à l'écouter et à vous lire, on a l'impression que ces deux mondes sont de plus en plus séparés dans le même espace géographique, comme si le fractionnement de la société cubaine entre le très haut et le très bas s'était aggravé. C'est ce que vous pensez aussi ?
Si. Sí, tienes toda la razón en lo que dices.
Vous avez parfaitement raison.
La sociedad cubana,
la société cubaine dans laquelle j'ai grandi, j'ai étudié, je suis allé à l'université, par exemple.
Era una sociedad muy homogénea.
C'était une société très homogène.
Había como una pobreza generalizada.
Il y avait une pauvreté généralisée, mais une pauvreté digne.
Yo recuerdo en la época en que estudiaba en la universidad, en la Facultad de Letras.
Et moi je me souviens du temps où j'étudiais à la fac de lettres.
Que yo tenía uno o dos pares de zapatos y mi novio.
Et moi j'avais une ou deux paires de chaussures et ma fiancée aussi avait une ou deux paires de chaussures, c'est tout.
Y entonces esas personas tan pobres que éramos.
Et nous, avec nos une ou deux paires de chaussures, avec l'argent que nous avions, nous allions dans une librairie et nous achetions 5 livres.
Un día podíamos salir con una novela de Hemingway.
On pouvait rentrer dans la librairie un jour et sortir avec Hemingway, la Chartreuse de Parme, Dostoïevski, Salinger.
Y después íbamos a un cine y veíamos una película de Visconti.
Et ensuite, on pouvait aller au cinéma, aller voir une film de Visconti ou d'un autre grand metteur en scène, mais on était riches de culture.
À partir des années 90, cette société perd sa homogénéité.
À partir des années 90, cette société perd son homogénéité et cette possibilité d'être dans une société qui était à la fois pauvre et riche culturellement.
De pronto, todos fuimos extremadamente pobres.
Ensuite, on est tous devenus très très pauvre.
Pero esa situación era insostenible.
Mais c'était une situation insoutenable et a commencé un processus de dilatation de la société.
Y es una dilatación muy rara porque
c'est une situation particulière parce qu'il peut y avoir dans certaines parties de la société, dans la partie pauvre, des gens condamnés par la société.
Por ejemplo, en los barrios pobres,
par exemple, dans les quartiers pauvres, la majorité de la population est noire.
Pero también son pobres personas que tienen,
mais sont pauvres aussi des gens qui sont passés par les universités et qui sont vraiment des gens vraiment cultivés et préparés professionnellement.
Mientras se comienzan,
pendant ce temps-là, il y a des gens qui commencent à s'enrichir, c'est peut-être pas le mot adapté.
Puede haber algunos que se hayan enriquecido, pero
il y en a qui ont commencé à s'enrichir, mais ce sont des gens qui ont plus de possibilités économiques.
Y son personas que están en algunos casos,
et ce sont en général des gens qui sont plus proches des sphères du pouvoir,
o personas que viven en las mejores zonas de la ciudad,
ou des gens qui vivent dans les meilleurs quartiers de la ville,
o que tienen una habilidad especial para,
ou c'est des gens qui ont des capacités spéciales pour trouver les failles, pour trouver les ressources nécessaires.
Y eso inevitablemente va a seguir creciendo en Cuba.
Et ça, inévitablement va continuer à grandir à Cuba, à augmenter.
Porque los que están empobrecidos
ceux qui se sont appauvris n'ont aucune possibilité, très peu de possibilités d'arriver à une croissance sociale.
Y en general, un elemento del que hablé antes, la vida cultural.
Et moi, je sens que la vie culturelle de l'île s'est vraiment appauvrie.
En tout cas, c'est vrai que cette fracture sociale, on la sent à chacune des pages de votre livre, Leonardo Padura, puisqu'on voit Mario Conde qui a souvent faim. Par exemple, être devant un bon plat, c'est une fête parce qu'il n'a pas forcément l'argent. Donner ses chaussures à un pauvre dans la rue, c'est un geste important pour lui. Un serveur dans un hôtel qui, lui, est ingénieur, ne peut pas faire ce métier. Il doit servir dans un restaurant. Donc, il y a cette fracture sociale. Les très pauvres d'un côté, les très riches de l'autre. Je ne sais pas si la religion permet une forme de consolation. En tout cas, ici, tout le monde cherche la Vierge Noire parce qu'on va découvrir grâce à des chapitres historiques en alternance du récit contemporain, vous remontez le temps et l'espace de la guerre d'Espagne en 1939 aux différentes guerres saintes du XIIIe et XVe siècle, où on apprend que cette statue viendrait d'Afrique, serait passée peut-être par Saint Jean d'Acre, et en tout cas qu'elle a des pouvoirs magiques. ¿Vous croyez au miracle, Leonardo Padura?
Yo creo que los milagros existen.
Je crois que les miracles existent.
Si tienes suficiente fe, pues ves milagros.
Si on a suffisamment la foi, on voit des miracles.
Te pongo un ejemplo.
Je vais donner un exemple. Il y a des gens à Cuba qui vont consulter un oncologue.
Y ese oncólogo le dice que está enfermo, que tiene un cáncer.
Il leur dit, qu'il leur annonce qu'ils sont malades et qu'ils ont un cancer.
Esa persona, por supuesto, comienza un
Ces gens commencent un traitement médical pour essayer de guérir ce cancer.
Pero el 90% de los cubanos,
mais 99% des Cubains dans cette situation vont généralement consulter un santero.
Busca una alternativa mística.
Ils vont chercher une alternative contre ce danger qui menace leur vie.
Hay personas enfermas de cáncer. Que se curan.
Il y a des gens qui ont le cancer, mais qui guérissent.
Et qui lo curó, la medicina o el misterio?
Qui les a guéris, la médecine ou le mystère?
Hay muchas personas que creen
que y a beaucoup pensent que c'est ce pouvoir surnaturel qui a influencé leur histoire. Mais ça, c'est pas nouveau dans l'histoire. Il y a beaucoup d'exemples.
Y durante siglos.
Et depuis des siècles, ces vierges qui viennent en général du nord de l'Afrique, on trouve ces vierges dans le sud de la France et le nord de l'Espagne. Beaucoup de ces vierges ont été détruites parce qu'on parle de 7 ou 8 siècles d'existence et beaucoup ont disparu. Dans les chroniques, on trouve que le roi Saint-Louis a apporté 7 vierges noires de sa croisade.
Entonces, en esas vírgenes negras está la posibilidad de la
Il y a dans ces vierges noires les espérances de la foi, du miracle.
Pero también encontré en ellas la violencia.
Mais j'ai trouvé aussi l'expression du pire de la condition humaine, de la violence et de la guerre.
Porque creo que si hay algo que nos enseña la historia.
Mais ce que nous a enseigné l'histoire, c'est que aucun mal ne vient seulement du mal. Parfois, le mal peut venir du bien.
Somos muy complicados.
Nous sommes très compliqués.
Avec vous, Leonardo Padura, j'aimerais commenter le titre en français, qui est une parfaite traduction du titre original, donc la transparence du temps, qui en fait s'explique par le fait que, à travers les différentes époques, un seul personnage, Anthony Barral, endosse la personnalité de tous ces chevaliers qui ont protégé cette Vierge Noire de l'Afrique, on l'a dit, à l'Espagne, en passant par la France jusqu'à son arrivée à Cuba, comme s'il y avait une continuité entre tous ces hommes courageux et que la mort ne s'arrête pas à la fin de l'existence de chaque individu. Quel est votre lien, vous, avec le temps? Est-ce qu'il est transparent pour vous?
Si, ahí yo traté de ver.
Oui, j'ai essayé par ce moyen d'exprimer une de mes obsessions.
Y es hasta qué punto El hombre moderno.
Jusqu'à quel point l'homme moderne est différent de celui qui l'a précédé il y a 4, 5, 6, 10 siècles.
Hoy, por supuesto, vivimos en un contexto.
Actuellement, nous vivons dans un contexte que, il y a 20, 25 ou 30 ans, nous n'aurions jamais pu imaginer.
Porque este mundo de la era digital.
Parce que ce monde digital, Facebook, Internet, a changé beaucoup dans les relations entre les gens.
Pero yo creo que la esencia del hombre, más o menos, es siempre la misma.
Mais je crois que l'essence de l'homme est plus ou moins toujours la même.
Yo creo que desde los tiempos de.
Je crois que depuis les écrits de la Bible ou la mythologie grecque, nous sommes toujours plus ou moins les mêmes.
Y ese hecho de que el hombre pueda verse en el espejo del tiempo.
Et je crois que le fait que l'homme puisse regarder à travers le miroir des siècles et se reconnaître, c'est très important.
El historiador que escribe libros de historia que tiene un carácter científico.
L'historien qui travaille, qui fait du scientifique de l'histoire, constate des processus d'évolution de l'histoire.
Yo como novelista me aprovecho.
Moi, en tant qu'écrivain, je profite de ce que j'apprends dans l'histoire, mais je donne un caractère dramatique.
Et pour ça, trato de voir.
Et c'est pourquoi je tente de montrer comment ces comportements de l'homme sont similaires à travers le temps.
Et pour moi, eso es fascinante. Es ver.
Ce que je trouve fascinant, c'est de voir à travers la transparence du temps la permanence de l'humain.
Y entonces, ahí empiezo.
Et alors, j'en profite pour poser les pièges que je peux poser et que qu'aucun de nos historiens ne pourrait poser.
Et puedo poner a hablar a dos personajes del siglo XIII.
Et je peux faire parler deux personnages du XIIIe siècle de la situation actuelle de la Catalogne.
Puedo decir que estoy hablando de lo
que. Et personne ne peut me dire que je suis en train de parler de la situation actuelle de Catalogne. Mes personnages, ils sont au XIIIe siècle.
Como determinados poderes. Influyen en las personas y
c'est
las hacen
la façon dont différentes personnes font agir les autres en fonction de leur pouvoir.
O puedo poner a Rembrandt y a un discípulo a hablar del arte.
Comme je peux faire parler Rembrandt et un de ses apprentis et faire comprendre comment fonctionne la censure maintenant à travers l'art.
Esa es una de las.
C'est ma façon d'utiliser ces possibilités de la transparence du temps.
Et c'est votre liberté d'écrivain et c'est le pouvoir de la littérature qui peut tout.
Je crois que si. El poder de la literatura.
Le pouvoir de la littérature, c'est de montrer ce que nous savons mais que nous ne pouvons pas voir.
El escritor tiene que ser alguien.
L'écrivain doit au moins avoir l'intention de révéler quelque chose au lecteur. Souvent, ce sont des processus que le lecteur connaît, mais qu'il n'a jamais lu de cette façon-là.
Merci beaucoup, Leonardo Padura, pour nous avoir fait partager les coulisses de ce nouveau roman, La transparence du temps, qui a été donc publié aux éditions Anne-Marie Métellier. Merci à vous d'avoir assisté et traduit les propos de notre invité, un livre donc traduit de l'espagnol par Elena Zayas.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard. Le podcast de Littérature sans frontières à réécouter sans limite sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.